Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Cieux sonores de l'île de Montréal, Santé Plus, Le Journal de Montréal et La Presse. Au programme, 10 mythes sur le sommeil. Cette maman a donné naissance au premier septuplé survivant au monde. Voici ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. La psycho-éducation, incontournable pour la santé mentale de tous les Québécois. Et comptoir alimentaire, fini le plastique à usage unique à l'Université de Montréal. Bonne écoute!
Dix mythes sur le sommeil. Un texte du CIUS Nord de l'île de Montréal, paru le 13 décembre 2022. 1. Le sommeil avant minuit est plus reposant. Faux. C'est bien dommage, car ce mythe pourrait être bien utile pour faire coucher les enfants de bonne heure. Le sommeil comporte deux phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Ces deux phases se suivent à l'intérieur d'un cycle de 70 à 100 minutes qui se répète tout au long de la nuit. Au début de la nuit, les cycles ont beaucoup de sommeil lent et peu de sommeil paradoxal, puis les proportions s'inversent au cours de la nuit qui avance. Chaque phase du sommeil a son importance pour le corps et pour l'esprit. Par exemple, les premières heures de la nuit sont celles où l'on sécrète l'hormone de croissance pendant le sommeil. Vers la fin de la nuit, avec le sommeil paradoxal qui abonde, la consolidation de la mémoire et les rêves prennent plus d'importance. 2. Dormir une heure de moins par nuit, ce n'est pas grave. Faux. Il y a des conséquences à réduire d'une heure la durée de sommeil dont on a besoin. Les recherches nous montrent que même la perte d'une seule heure de sommeil peut affecter l'humeur, la mémoire, la forme physique, le jugement, le système immunitaire, etc. C'est d'autant plus important pour notre clientèle aux prises avec d'autres problèmes de santé, car une personne souffrante a besoin de toutes ses ressources. 3. Quand on dort, le corps est passif. Faux. Bien sûr que l'on respire plus lentement, que la température corporelle chute et que le pouls ralentit pendant le sommeil. Mais le cerveau fonctionne toujours, mais d'une façon différente. Dans l'obscurité, il amène le corps à sécréter des hormones, à synthétiser des protéines, à mener la lutte immunitaire, à réparer nos blessures physiques, à mettre en mémoire nos apprentissages et à créer nos rêves. Tout un contrat. 4. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Faux. Certaines personnes peuvent parfois avoir cette impression, mais la plupart du temps, elle n'est pas juste. En effet, on constate au laboratoire que le sommeil peut être fractionné en plusieurs courtes périodes sans que l'on s'en souvienne. Ainsi, on aura dormi un certain temps, mais ce qu'on gardera comme souvenir sera une période ininterrompue d'éveil. Ceci n'enlève rien au sentiment bien justifié d'avoir un sommeil insatisfaisant, car la fragmentation du sommeil a des conséquences très négatives sur le fonctionnement diurne. 5. L'alcool aide à mieux dormir. Faux. L'alcool peut agir comme un anxiolytique et peut ainsi faciliter l'endormissement chez certaines personnes, mais le sommeil qui s'ensuit est perturbé. L'alcool a des effets sur la température corporelle et les neurotransmetteurs. Pour dormir, il faut que la température baisse et l'alcool empêche ce phénomène. Une fois endormi, on dormira moins bien, on se réveillera plus souvent et plus tôt. 6. L'activité physique aide à mieux s'endormir. Vrai et faux, c'est l'intensité de l'activité physique qui est déterminante. Il ne faut jamais faire un exercice physique intense en soirée, parce que cela vient à l'encontre du métabolisme qui se prépare à ralentir. Par contre, une marche tranquille peut être bénéfique et représenter un moment de détente si elle reste calme, sans pensée préoccupante. Soulignons qu'il y a une différence entre la fatigue et la somnolence. La fatigue, c'est l'incapacité de fournir un effort supplémentaire. Après 10 km de course, On est fatigué, mais on ne s'endort pas. La somnolence est un ralentissement de l'organisme qui prépare au sommeil. On a les paupières lourdes. Vous écoutez 10 mythes sur le sommeil, un texte du CIUS Nord de l'île de Montréal, paru le 13 décembre 2022. 7. Si on souffre d'insomnie, vaut mieux rester plus longtemps au lit. Faux. Lorsqu'on souffre d'insomnie, il faut renforcer l'association entre le lit et le sommeil. Trop souvent, la chambre à coucher sert à des activités incompatibles avec le calme nécessaire au sommeil. Télévision, téléphone, ordinateur, discussion, lecture passionnante. Tout le temps passé au lit par une personne insomniaque doit être occupé exclusivement par le sommeil, sauf deux exceptions, l'activité sexuelle et se reposer quand on est malade. Ainsi, après 20 minutes sans dormir, il est préférable de se lever, de quitter la chambre à coucher et de faire une activité calme, comme lire un magazine. On retournera au lit seulement lorsque l'on sentira le sommeil se manifester par lui-même, les paupières lourdes et l'esprit somnolent. Au début, ce n'est pas nécessairement facile, car le lit est souvent devenu le lieu où on rumine nos préoccupations, mais graduellement, après quelques nuits, cette technique pourra améliorer la rapidité de l'endormissement. Si le problème persiste, il faudra consulter un professionnel de la santé. 8. Les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil. Vrai et faux. Tout d'abord, il faut se rappeler que le besoin de sommeil varie d'un individu à l'autre. Bien que les moyennes nationales de sommeil nocturne tournent autour de 7,5 heures, près de 25 % des gens dorment 6 heures ou moins et 15 % dorment 9 heures ou plus. La meilleure façon pour déterminer son besoin de sommeil est d'observer le temps que l'on dort pendant les fins de semaine et en vacances. Souvent, les personnes âgées dorment moins que les adultes plus jeunes, mais ce changement se fait progressivement. Avec l'âge, on peut devenir un petit dormeur et le sommeil est souvent redistribué sur 24 heures, avec des siestes en journée. L'important est de vérifier si on attribue des difficultés de fonctionnement diurne à un sommeil nocturne de mauvaise qualité. 9. Grâce à la science, on pourrait avoir une bonne nuit de sommeil en 2 heures. Faux! Il n'y a pas de raccourci à la récupération physiologique et psychologique apportée par le sommeil, et cela prend du temps. Personne ne peut couper impunément son sommeil sans en subir les conséquences. Les plus petits dormeurs ont besoin d'un minimum de 4 heures de sommeil par nuit, sans exception. Seulement une minorité d'individus est capable de se contenter de si peu. On estime qu'un déficit de sommeil n'est pas sans répercussion sur la santé et l'état de vigilance. Pourquoi vouloir dormir si peu alors que le sommeil peut être si agréable? 10. Il est normal pour un adolescent de se coucher et de se lever très tard. Vrai et faux. Avec l'adolescence, l'horloge biologique qui règle le rythme veille-sommeil est un peu comme un cadran qui montre du retard. Le signal pour s'endormir arrive plus tard, mais le besoin de sommeil demeure le même, autour de 9 à 9,5 heures. D'autres éléments viennent par contre exagérer cette tendance, jusqu'au point où cela peut interférer avec les obligations scolaires. Les nombreuses activités parascolaires en soirée, les activités sociales et sportives, le travail à temps partiel rémunéré, l'utilisation de la chambre à coucher comme un repère nocturne pour des activités incompatibles avec le calme nécessaire au sommeil, voir aussi le mythe numéro 7 sur le temps passé au lit. Ainsi, le moment de l'endormissement est d'autant plus reporté car le corps et l'esprit ne sont pas prêts à s'abandonner au sommeil. C'était 10 mythes sur le sommeil, un texte du CIUS du Nord de l'île de Montréal, paru le 18 décembre 2022. cette maman a donné naissance au premier septuplé survivant au monde, voici ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Un texte de Laurence O, paru le 17 mars 2020 dans Santé Plus. Certaines familles n'ont en tête de n'avoir qu'un seul enfant. C'est généralement un choix réfléchi et qui se comprend. Un enfant est une charge financière qui n'est pas à sous-estimer. Il arrive cependant que le destin ait d'autres plans pour ces familles. Elles se retrouvent alors avec jumeaux ou encore des triplés. Ce fut un choc lorsque la famille McCaughey apprend que la maman enceinte portait 7 fœtus dans son ventre. C'était en 1997. Et découvrez leur vie aujourd'hui. Une histoire relayée par nos confrères du journal britannique le Daily Mail. Nous sommes en 1997 et Bobby McCaughey, une femme enceinte, s'apprête à donner naissance à 7 bébés. C'est une opération dangereuse et de fait, plus une grossesse est multiple, plus le risque de perdre un ou plusieurs bébés est grand. Pour le grand bonheur de la famille McCaughey, la naissance de leurs enfants marque le fait que ces septuplés ont tous survécu à la naissance. Une naissance controversée. En 1997, la naissance des enfants McCaughey ne faisait pas l'unanimité. En effet, l'arrivée au monde des septuplés a tout de suite attisé l'attention du public et des médias. D'une part, les gens ont montré un support inconditionnel à la famille en leur envoyant des messages d'encouragement. D'autre part, des personnes ont critiqué les parents pour avoir mis au monde autant d'enfants. Il n'en reste que la naissance de ces 4 garçons et 3 filles a suscité l'intérêt de tous. Ils ont grandi. Avec l'intérêt du public vient quelques avantages. La famille s'est vue offrir l'équivalent de 2 ans de couches et de denrées alimentaires. Kenny McCaughey est le père des enfants. Il travaille pour une société de revêtements métallurgiques et, quoique reconnaissant pour l'aide que la famille a reçue, reste toutefois pragmatique et apprend très tôt à ses enfants les valeurs de l'effort et du travail. C'est en 2015, après tant d'efforts et tribulations, que les septuplés McCaughey atteignent l'âge symbolique de 18 ans. Ils ont tous eu l'équivalent du baccalauréat aux États-Unis. La maman revient sur les 18 années qui ont précédé avec émotion. Citation : les souvenirs, la joie, les chagrins, c'est ce qui nous a menés là où on est aujourd'hui et c'est un jour spécial. Quant aux septuplés, leur vie ne vient que commencer, mais ils ont une certitude. Ils seront toujours là l'un pour l'autre. Une des filles McCaughey, Kelsey, aurait déclaré, citation, « Mes frères et sœurs sont mes meilleurs amis. Quand j'ai besoin de parler à quelqu'un, ils sont toujours là pour m'aider. » Fin de citation. Les naissances multiples, des naissances risquées. Une grossesse multiple présente des risques bien plus élevés que la naissance d'un seul bébé. Ce risque concerne non seulement les fœtus, mais aussi la maman. Plusieurs complications peuvent toucher les fœtus d'une naissance multiple. Retard de croissance intra-utérin et troubles hémodynamiques. Il semblerait toutefois que la complication la plus dangereuse qui plane sur ce type de grossesse est la prématurité. C'est pour cette raison que ces grossesses requièrent un suivi médical particulier, selon le professeur Yves Ville, qui a été interviewé par le site Doctissimo. Citation : le but d'une prise en charge adéquate d'une grossesse multiple est de reconnaître très tôt une complication pour la prendre en charge au plus vite. Fin de citation. Il souligne l'importance que, citation, la femme doit être suivie par des praticiens ayant l'habitude de suivre des grossesses multiples. Fin de citation. C'était cette maman a donné naissance au premier septuplé survivant au monde. Voici ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Un texte de Laurence O, paru le 17 mars 2020 dans Santé Plus.
Kiosque Magazine.
La psychoéducation, incontournable pour la santé mentale de tous les Québécois. Un texte de Félix David L. Soucy, paru le 22 février 2023 dans le Journal de Montréal. Alors que se tiennent les journées de la psychoéducation, il m'apparaît essentiel de rappeler l'importance du soutien offert par les psychoéducateurs, notamment en ce qui a trait aux problématiques de santé mentale. Spécialistes des difficultés d'adaptation, ces professionnels agissent directement dans le quotidien des personnes et de leur entourage pour leur fournir des outils concrets et des moyens réels adaptés à leur réalité. Du soutien pour tous. Ryan est un jeune professionnel qui vient de recevoir un diagnostic de trouble de santé mentale. Il souhaite être soutenu pour comprendre les impacts de cette condition dans sa vie de tous les jours. Alice a 3 ans et fait des crises lors des transitions entre les différentes activités de la journée. Ses parents demandent du soutien à domicile et dans leur quotidien pour mettre en place des stratégies pour augmenter les capacités d'anticipation de leur fille. Louise doit laisser sa maison pour une résidence pour aînés parce qu'elle souffre de démence. Son médecin et son entourage souhaitent qu'elle continue d'exercer son plein potentiel dans ce nouvel environnement malgré la maladie. Julia a 16 ans. La socialisation à l'école et ses résultats scolaires lui génèrent beaucoup de stress qu'elle n'arrive pas à gérer. Elle vit parfois même des crises de panique. Elle aimerait trouver des moyens concrets pour se sentir mieux. Arthur est en 3e année du primaire. Il a des comportements perturbateurs qui nuisent à son fonctionnement dans la classe et dérangent les autres. Son enseignant a besoin d'accompagnement pour développer des stratégies d'intervention adaptées aux besoins spécifiques de son élève. Qu'ont en commun toutes ces personnes et leur entourage? Ils pourraient être accompagnés par un psychoéducateur dans les moments où ils se sentent vulnérables. Bien connu du grand public pour sa présence dans les milieux de l'éducation, la psychoéducation est également présente dans divers autres secteurs. En effet, près de 6 000 psychoéducateurs œuvrent en milieu scolaire, mais également dans les CHSLD, les hôpitaux, les organismes communautaires et directement dans les milieux fréquentés par la personne, comme son domicile, son milieu de travail ou autre. Une expertise indispensable. Les dernières années n'ont pas été de tout repos. La pandémie et tous les bouleversements qu'elle a entraînés ont engendré des difficultés d'adaptation pour plusieurs. Même aujourd'hui, qu'ils soient petits ou grands, prévus ou imprévus, simples ou complexes, les changements sont le lot quotidien de tous et il importe de continuellement s'adapter pour conserver notre équilibre. Sachant que les besoins en soutien psychologique sont criants au Québec et qu'il est parfois difficile d'obtenir de l'aide, il est important de rappeler que les psychoéducateurs sont présents. Grâce à leur expertise sur le plan des difficultés d'adaptation, leur pratique unique et leur capacité à exercer un rôle conseil auprès d'autres intervenants, ils font partie de la solution pour favoriser la saine santé mentale de la population. Si vous ou l'un de vos proches vivez des difficultés ou une détresse psychologique, n'hésitez pas à faire appel à un psychoéducateur. Comme Ryan, Alice, Louise, Julia, Arthur et leur entourage, l'ensemble de la population peut bénéficier de l'expertise de ces professionnels pour retrouver l'équilibre dans leur quotidien. C'était la psychoéducation incontournable pour la santé mentale de tous les Québécois, un texte de Félix David L. Soucy, paru le 22 février 2023 dans le Journal de Montréal.
Thank you.
barres alimentaires, finit le plastique à usage unique à l'Université de Montréal. Un texte de Henri Ouellette Vizina, paru le 16 janvier 2023 dans la presse. Exit le plastique à l'Université de Montréal. Dès le 6 février 2023, l'établissement d'enseignement supérieur retirera tous les contenants à usage unique de ses comptoirs d'alimentation, avec la possibilité d'apporter les siens, d'en acheter ou d'en louer par un service de prêt. Parlant d'un réel changement de culture, la direction fait toutefois le pari que sa communauté emboîtera le pas. Citation : Quand les gens ont dû abandonner les sacs en plastique dans les supermarchés, ça a fait beaucoup jaser. Mais en fin de compte, tout le monde s'est adapté et aujourd'hui, chacun s'en sort très bien, les habitudes ont changé. On veut que ce soit la même chose ici, mais avec tous les contenants de plastique. Fin de citation, affirme le directeur des services alimentaires de l'UdeM, Pascal Proutot, en entrevue avec la presse. Selon lui, citation, « Il n'y a pas de meilleur endroit qu'une université pour implanter ce genre de projet écologique. » Fin de citation. Citation, « Comme institution, on a un devoir d'exemplarité en matière de développement durable. Mais surtout, on est un service autofinancé, donc oui, on doit rentabiliser nos activités, mais on n'a pas le même objectif financier que dans une entreprise privée, explique M. Proutot. Ça nous donne le luxe de faire des essais, de tester des projets éco-durables. » Fin de citation. Dès le 6 février, la cafétéria Chez Valère et les 5 comptoirs alimentaires de l'université n'offriront donc plus aucun contenant en plastique. Au moins 2 cafés étudiants se sont déjà joints au mouvement, mais M. Proutot ambitionne de les réunir tous. On en compte environ 25 sur le campus. Les étudiants auront dorénavant 3 choix : apporter les leurs, en acheter à un coût modique ou utiliser le service de location de la jeune pousse Cano, qui fait déjà affaire avec l'UdeM et un peu plus d'un millier d'étudiants depuis quelques années en offrant des gobelets de café réutilisables. Établie à Montréal, l'entreprise québécoise, déjà présente dans une 20aine d'établissements scolaires et une 15aine d'entreprises, prêtera maintenant une 10aine de modèles de contenants réutilisables aux étudiants de façon entièrement gratuite depuis une application mobile. Fait à noter, comme l'étudiant ne paiera rien, c'est plutôt son gestionnaire, ici l'université, qui réglera la note en fonction de l'utilisation au bout du mois. Citation : Sur l'application, ça se fait en quelques secondes, un peu comme un Bixi. On les emprunte et quand on a terminé, on les laisse dans une boîte de collecte pour être nettoyés sur place. Tous nos contenants ont un code QR unique, facilement traçable. Fin de citation, raconte le fondateur de Cano, Marco Gartenhaus. Citation : Tout est fait pour que ça soit simple, rapide. À l'UdeM, on a 6 bacs de collecte déjà en place. Les étudiants auront 14 jours pour le retourner, mais il y aura des incitatifs s'ils le font en 48 heures, poursuit le jeune homme. On vise plusieurs centaines, voire un millier d'utilisations pour un seul contenant. Fin de citation. En principe, l'Université de Montréal deviendra donc la première au Québec à faire un virage 100% zéro emballage, affirme M. Gartenhaus, qui y voit un geste vraiment audacieux, pouvant en inspirer d'autres. Institutionnellement, c'est un pari qu'on fait, reconnaît d'ailleurs la porte-parole de l'université, Geneviève Omira. Citation : Oui, c'est tout un changement d'habitude pour la communauté, mais on pense qu'au final, après quelques semaines, nos 45 000 étudiants et nos 10 000 employés vont choisir leurs options. Ils vont soit télécharger Cano, soit amener leur propre contenant, soit en acheter dans les comptoirs alimentaires. Fin de citation, dit-elle. Pascal Proutot va dans le même sens. Citation : Au début, il y aura probablement un peu de frustration, on s'y attend, parce que les gens vont se sentir obligés de sortir de leur sentier battu. Mais à terme, comme il n'y aura plus d'autres options, là je pense que ça va vraiment exploser. Fin de citation, anticipe le gestionnaire. Celui-ci ne cache pas que le règlement de l'administration Plante visant à bannir les plastiques à usage unique dans la métropole à partir du 1er mars 2023, a accéléré les démarches de l'UDM en ce sens. Citation : Quand on a vu cette loi arriver, on s'est dit qu'il fallait devancer nos démarches. C'était très ambitieux, mais en même temps, c'est une pression positive pour trouver des solutions rapidement. Fin de citation, conclut-il. D'ici le 6 février 2023, l'entreprise Cano tiendra des kiosques d'information à raison d'une ou deux fois par semaine sur le campus montréalais. Une campagne de communication sera aussi lancée cette semaine. C'était Comptoirs alimentaires, fini le plastique à usage unique à l'Université de Montréal, un texte de Henri Ouellette Vézina, paru le 16 janvier 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin à la lecture, Diane Métayer et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.